8h19, où nous parlons du débat de la primaire. On en reparle puisqu'il en a été question dans les journaux. S'agit-il d'un spectacle démocratique? Ces débats donc sur la primaire de la droite et des Républicains, où 7 candidats étaient présents hier. On en écoute un, Jean-François Copé.
Moi personnellement, entre identité heureuse et assimilation malheureuse, je vous dis tout de suite, dans une réunion d'habitants à Meaux, c'est pas par là qu'on commence. La vérité, c'est que sur le terrain, qu'est-ce que demandent les gens, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur sensibilité ou leurs origines? Ils veulent d'abord des réponses concrètes. Et c'est ça l'enjeu de cette campagne. Ça veut dire d'abord être en prérequis la sécurité. Parce que quand les gens ont peur les uns des autres, eh ben forcément, ça ne peut pas le faire. Deuxièmement, il faut de l'emploi. Troisièmement, il faut de la laïcité. Quatrièmement, il faut de la générosité sans assistanat. Et si je vous dis tout cela, c'est parce que sur la question de l'immigration qu'on évoque tous depuis tout à l'heure, chacun a son idée sur la question, c'est probablement plus consensuel qu'on ne le croit. Il y a un sujet qui est derrière, c'est le rapport à la nationalité française. Ma proposition, c'est d'en finir avec le droit du sol pour les enfants nés en France de parents étrangers.
Et pour évoquer cette primaire des Républicains, nous sommes en compagnie de Ludovic Piétenu, mon camarade, chef du service politique de France Culture, et de Florent Guénard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université de Nantes, vous êtes un philosophe du politique. Que vous inspire l'idée de primaire, Florent Guénard?
L'idée de primaire a l'air de devenir, dans notre vie démocratique, un moment important, avec une appropriation quand même, de, semble-t-il, en tout cas des médias, et puis on verra sans doute de l'ensemble des citoyens, de ce moment de choix qui précède d'une certaine manière le grand moment de choix qu'on a à faire pour l'élection de la présidence de la République. La question, c'est de savoir quelle signification on lui donne. Alors, ça a été beaucoup évoqué. Est-ce que c'est la fin des partis politiques? Est-ce que c'est par là qu'on voudrait redynamiser une vie démocratique qui s'essouffle?
Est-ce que c'est aussi une façon pour les partis politiques de conserver le pouvoir? Il y a cette théorie-là.
Oui, bien sûr, parce que c'est organisé à l'intérieur des partis, mais en même temps, c'est le parti politique sans les militants. Donc c'est un peu étrange, parce que les militants, d'une certaine manière, sont noyés. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de la primaire à droite. Mm-hmm. C'est de savoir si les militants vont avoir leur mot à dire, ou si au contraire, on va avoir une primaire ouverte qui pourrait bénéficier à tel ou tel candidat, sans faire de pronostic.
On a l'impression qu'aujourd'hui, dans notre manière de concevoir la démocratie, Florent Guénard, ce qui compte, c'est finalement que cette démocratie soit approfondie. Et la primaire est, en tout cas en apparence, un approfondissement du démocratie, puisque le peuple peut choisir non seulement son président, mais aussi ses candidats.
Oui, mais alors évidemment, on pourrait dire qu'on a un approfondissement parce qu'on pousse le principe démocratique le plus loin possible. Mais c'est-à-dire le principe démocratique tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité d'élection, la désignation des gouvernants.
Vous voulez dire qu'il en existerait d'autres?
C'est un peu ça, c'est-à-dire que on a l'impression qu'on va revitaliser la démocratie en l'étendant un peu, en étendant son principe à d'autres segments d'une certaine manière de la décision. Moi je veux bien, je dis pas d'ailleurs qu'il faut pas le faire, simplement il me semble qu'on oublie que la démocratie ça peut signifier autre chose et pas simplement un principe électoral.
Et vous en avez pensé quoi alors de ce débat hier, de ce premier débat entre les 7 candidats donc à l'investiture pour les Républicains, autrement dit pour la droite, et le centre, Florent Guénard?
Le débat, c'est un débat télé, hein. Donc le débat en lui-même, moi j'ai trouvé que c'était un produit extrêmement bien fait, très TF1, un peu jeu télé, c'est-à-dire que on a l'impression quand même qu'il faut pas trop désarçonner celui qui a l'habitude de regarder TF1. On lui présente une mise en scène qui a l'air assez classique. Et puis, je pense que ça a eu la fonction qu'on attend de tous ces débats télé, auxquels on a droit pour les primaires, mais aussi pour l'élection présidentielle en elle-même, c'est-à-dire que les candidats finalement se neutralisent. Il y a quelques éclats, il y a quelques moments un peu qu'on considère un peu spontanés, mais j'ai trouvé que dans l'ensemble tout était assez préparé en amont.
Et puis tout le monde a le même temps de parole. Finalement, les médias remplissent leur rôle démocratique.
Oui, alors de ce point de vue-là, ils remplissent leur rôle démocratique. Bien sûr, surveiller le temps de parole, ça c'est de toute façon, c'est surveillé par le CSA. Hein, donc,
c'était un peu scolaire, quoi. De façon un peu scolaire.
Voilà, c'est pas très. Ça fait moins débat quand même que succession de réponses à des questions quand même.
On a l'impression malgré tout qu'il y a eu un certain nombre de propositions, en tout cas précises. Les débats ont été assez techniques et on a pu entendre les différents candidats donner leur point de vue sur différentes questions programmatiques.
Bruno. Je pense que les Français diront bravo, merci. Parce qu'ils n'en peuvent plus des injustices sur le système de retraite. De voir qu'il y en a qui cotisent sur... les 25 meilleures années, les autres sur les 6 derniers mois, qui a encore des régimes spéciaux pour les cheminots, pour les parlementaires.
Vous ne craignez pas des manifestations monstres, enfin on a connu ça.
Pour les parlementaires aussi. Donc il faut supprimer tous les régimes spéciaux. Mais la justice, ce n'est pas de dire à un cheminot qui est rentré à la SNCF il y a 20 ans, on te supprime du jour au lendemain ton régime spécial. C'est de dire à chaque nouvel entrant, les régimes spéciaux, c'est fini. La justice, c'est aussi aligner les règles de cotisation des salariés du public chez les salariés du privé. Et la justice, c'est aussi tenir compte de tous ceux qui ont des petites retraites en France. Tous ceux qui soient agriculteurs, artisans, qui ne s'en sortent pas avec leurs petites retraites. Moi, je propose une augmentation du minimum retraite pour que toutes ces personnes qui ne s'en sortent pas aujourd'hui puissent en sortir demain.
Vous avez regardé ce débat pour nous, Florent Guénard, vous êtes un philosophe du politique. On a l'impression que finalement, on avait une succession de propositions qui étaient des propositions assez techniques, assez précises. Avec quelles conséquences, selon vous ?
Ça, il faudra voir d'ailleurs les conséquences dans l'opinion. C'est-à-dire peut-être qu'il est un peu trop tôt d'ailleurs pour mesurer véritablement l'impact de ce débat. Moi, ce qui me semble intéressant, c'est que c'est deux choses. C'est-à-dire que c'est à la fois il y a un travail sur l'identité et sur la différence. C'est-à-dire qu'on voit quand même émerger, en dépit des différents points de vue qui se sont exprimés, des 7 points de vue, on voit émerger des grandes tendances extrêmement fortes qui constitueront le programme de toute façon, d'une manière ou d'une autre, du candidat qui sera choisi par la droite. Donc là, on voit émerger quand même une ligne politique, quelles que soient, j'ai envie de dire, les différences singulières, individuelles. Donc on voit les thèmes de campagne qui émergent déjà. Voilà, la question de la fonction publique, la question des retraites, des régimes spéciaux, évidemment la question de l'immigration.
L'identité pour la droite.
Voilà, bah c'est ça, c'est lié, la question de l'identité. Et je pense que, indépendamment, me semble-t-il, des différences point par point, je suis pas sûr que ça soit ça qu'on retienne de ce débat-là, c'est-à-dire justement ce qui distingue les candidats. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. C'est ce qui les rassemble, semble-t-il, qui fait... Parce qu'au bout de 2h30, c'est au fond la leçon qu'on en tire.
Ludovic Piétenu.
Je rejoins Florent Guénard là-dessus. Je trouve qu'effectivement, dans cette succession de points de vue, de monologues presque, on avait peu de différences finalement. On avait bien l'impression que c'est bien une seule et même famille qui s'affronte. Donc c'est un peu difficile d'avoir des différences, surtout quand il s'agit de la droite. C'est-à-dire, autant on pouvait distinguer en 2011 dans le débat télévisé entre les 6 candidats de la gauche quelques petites nuances, parce que c'est le Parti Socialiste, parce que c'est un parti censé être plus démocratique en son sein, donc avec plus de divergences, plus de nuances. Mais clairement, hier, moi, ça m'a donné envie de rejoindre le point de vue de François Hollande, qui est de dire « c'est le programme commun de la droite ». Ça me donnait un peu ce sentiment.
En tout cas, il y a des candidats à la candidature qui ont donc tenté hier de faire valoir leurs différences, par exemple Alain Juppé.
Je dis aux partenaires sociaux qui, d'après la loi, doivent équilibrer les indemnisations par les cotisations, que je leur laisse 6 mois pour le faire, que si à la fin de l'année 2017, ils ne l'ont pas fait, la loi prévoira une dégressivité de 20% à partir d'une année et également 20% à partir de 18 mois. C'est-à-dire que ça s'appliquera au 1er janvier 2019.
Donc,
et si d'ici 2019, l'ensemble des mesures que le gouvernement que j'aurai nommé aura prises n'a pas donné des couleurs au marché de l'emploi, ça veut dire que nous aurons échoué et je ne peux pas me poser sur cette hypothèse-là. Donc vous voyez que c'est parfaitement cohérent et par ailleurs, je maintiens bien sûr une indemnisation minimum pour ceux qui effectivement ont besoin d'être aidés.
Une réaction au propos d'Alain Juppé, Florent Guénard.
Ça fait partie aussi des thèmes qui émergent, c'est-à-dire comment revenir au plein emploi, comment retravailler justement cette question-là du chômage. Alors au-delà de la question technique qui a été posée, au-delà des solutions techniques qui peuvent être posées, et après tout ce serait aux spécialistes et aux experts d'en dire quelque chose, moi ce qui m'a frappé c'est de voir que dans l'ensemble, tous les candidats à un moment ou à un autre essayaient de... pensaient qu'il fallait redonner une certaine noblesse à la politique à travers la capacité de décision. C'est-à-dire que même Alain Juppé qui dit « je vais quand même m'appuyer sur un certain nombre d'institutions et encadrer ça par la loi », au fond, il va falloir un moment qu'on revienne en disant « les acteurs sociaux, il va falloir qu'ils choisissent, ils sont on va les mettre devant une alternative ».
On ne pliera pas.
On ne pliera pas. Voilà, c'est exactement ça. Donc on ne pliera pas, on ne... d'une certaine manière, on va faire confiance dans une certaine mesure au dialogue social, mais enfin le dialogue social, ça ira 5 minutes, ce sera le moment démocratique et ensuite il y aura un moment de décision.
Ludovic Piétenu.
Est-ce que ça veut dire qu'en France, dans cette démocratie, Florent Guénard, il y a un désir d'ordre de plus en plus fort?
Je sais pas si un désir d'ordre. Je pense que c'est difficile de mesurer quel est le désir de l'opinion des citoyens. C'est quand même très difficile de savoir. Il y a une focalisation sur l'ordre, il y a une focalisation sur la sécurité, il y a une focalisation sur des thèmes que la classe politique, peut-être dans son ensemble, enfin avec un certain nombre de nuances, considère comme étant au cœur des préoccupations. Alors, moi je veux bien, j'aimerais que d'ailleurs pouvoir le vérifier, parce qu'il me semble quand même que les citoyens français sont aussi attachés à leur liberté, à une certaine conception qu'ils se font de l'égalité, à une certaine conception qu'ils se font de la justice sociale, d'ailleurs on peut quand même le voir. La focalisation médiatique sur un certain nombre d'hommes politiques qui clivent ou qui focalisent leur discours là-dessus me paraît être un effet quand même justement davantage médiatique que démocratique.
Il y a le contexte d'attentat quand même, de terrorisme.
Oui. Il y a le contexte d'attentat, mais sur lequel, me semble-t-il, il y a un consensus assez large, et je ne sais plus si c'est véritablement clivant. Je ne suis pas sûr que l'élection présidentielle se jouera sur ces questions.
Alors, qui clive? Eh bien, Nicolas Sarkozy tente, semble-t-il en tout cas, de cliver avec un certain nombre de propositions formulées hier. On l'écoute.
Sur les 35 heures, la règle est simple. Je veux la liberté. Je ne serai pas le Martin Aubry de droite. C'est-à-dire qu'on a eu une obsédée des 35 heures, on ne va pas être des obsédés des 39 heures. Chaque entreprise pourra choisir la durée hebdomadaire de son travail librement à deux conditions. L'un, la première, c'est que si c'est 37 heures, c'est 37 heures payées 37, pas 35. Et la deuxième, c'est que ça se fasse par une décision dans l'entreprise, un référendum d'entreprise, une voix de plus, et c'est la liberté.
Florent Guénard, il ne faut pas être obsessionnel en politique, comme le dit Nicolas Sarkozy.
Oui, alors là, il a joué une carte différente. C'est-à-dire qu'on aurait attendu, je pense que... Bon, c'est assez stratégique de sa part. C'est-à-dire qu'on aurait attendu qu'il surenchérisse d'une certaine manière dans la décision et dans l'application de la réforme à tout prix. Et justement, il va jouer la carte de la négociation sociale de l'autre côté. Donc ça fait partie de ces petites différences qui font émerger, je pense, un peu mais médiatiquement dans la stature. C'est-à-dire que c'est des ruptures de ton qui sont, à mon avis, extrêmement bien pensées.
Bon, il faut aussi qu'il justifie de ne pas avoir supprimé les 35 heures s'il avait eu envie, par exemple, de le faire lors de son quinquennat, Florent Guénard.
Oui, bien sûr qu'il faut qu'il le justifie parce que on va évidemment lui poser un certain nombre de questions là-dessus. Mais encore une fois, moi, je suis pas sûr que ça se joue là-dessus. C'est-à-dire que évidemment qu'on va lui donner il a un bilan à assumer en tant que président de la République. Mais on sait bien qu'il a suffisamment de rhétorique pour dire je ne l'ai pas fait, je pourrais le faire, etc., etc. C'est pas ça qui va le gêner. Je suis pas sûr que son passé ici le gêne rhétoriquement.
Plus généralement, le débat semble se polariser entre Alain Juppé. Et Nicolas Sarkozy, Florent Guénard, un certain nombre d'électeurs qui traditionnellement votent à gauche ont formulé une envie de voter à cette primaire. Selon les sondages, on dit qu'ils sont 8%, 10% de ce collège électoral.
15%.
Votre point de vue sur le fait qu'en démocratie, des électeurs de gauche puissent se prononcer dans une primaire de droite?
C'est une primaire ouverte, c'est une primaire. Donc, il n'y a aucune raison, d'une certaine manière, que n'importe quel citoyen s'empêche d'aller voter s'il est impliqué. Après tout, on lui diffuse un débat sur une grande chaîne à l'heure où il a l'habitude de regarder autre chose.
C'est une façon de l'inviter à voter.
C'est une façon de l'inviter à s'impliquer.
Il y a cette charte, Florent Guénard, vous la connaissez. J'accepte l'alternance, j'ai envie d'alternance.
Oui, j'ai envie d'alternance, je reconnais les valeurs républicaines de la droite et du centre. Donc, d'une certaine manière, tout le monde peut s'y retrouver.
Ça, c'est vous qui le dites.
Je ne sais pas. Enfin, les valeurs républicaines, républicaines de la droite et du centre. Donc, est-ce que tout dépend de l'interprétation qu'on fait? Est-ce que ce sont les valeurs du droite? Est-ce que ce sont des valeurs républicaines qui sont partagées par la droite et le centre? Donc, après tout, on pourrait très bien dire qu'il y a des valeurs républicaines transversales dans la classe politique.
Mais aux États-Unis, un républicain ne vote pas aux primaires démocrates.
Bah, un républicain encarté, peut-être, j'en sais rien. Moi,
là, on a vu, par exemple, une section du Parti Socialiste, c'était la section du PS de Moselle, tweeter le mode d'emploi des primaires de la droite. C'est quand même, disons, une évolution un peu déconcertante.
Ouais, c'est une évolution déconcertante. Alors, ça s'explique, hein. Il y a des raisons contextuelles qui tiennent à la personnalité de Nicolas Sarkozy et à l'animosité qui entoure justement cette personnalité à gauche. Mais il me semble que voilà, il faut prendre un petit peu de hauteur. Après tout, si c'est ce moment démocratique de cette revitalisation de la démocratie qu'on essaye précisément d'insuffler, il y a aucune raison qu'un électeur, d'une certaine manière, s'interdise d'aller voter. Alors évidemment, il y a un engagement sur l'honneur à prendre, il y a un certain nombre de papiers à prendre. Je suis pas sûr qu'on se déshonore d'une certaine manière en allant à la primaire, quel que soit son... Quand on n'est pas à droite, voilà. Je suis pas sûr qu'on se déshonore d'une certaine manière.
On entend des critiques à droite, notamment de ceux qui pensent évidemment pâtir de cette mobilisation d'électeurs inattendue, dirait-on, à la primaire des Républicains. Et en matière de primaire, on a un autre exemple, puisque les élections ne sont pas seulement en France. Il y a aussi une élection présidentielle aux États-Unis. Je vous regardais pendant les informations de 8h d'Anne-Laure Chouin, au moment où on diffusait un sujet sur Donald Trump. Finalement, Donald Trump et la conséquence de primaire. Donald Trump est-il réellement un bon choix pour le Parti républicain, selon vous, Florent Guénard ?
Ah bah, le Parti républicain a l'air de ne pas le penser, hein. Donc, non, de toute façon, Donald Trump n'est pas un bon choix. Je pense qu'évidemment, ça suscite une interrogation, d'après coup, sur ce processus de désignation des primaires, qui a d'une certaine manière échappé au parti en lui-même. On en parlait tout à l'heure, quel est le rôle des partis politiques. Alors, à mon avis, on reviendra pas en arrière, c'est-à-dire que voilà, les primaires sont instituées, etc. Peut-être qu'elles seront davantage encadrées à l'intérieur des partis, je ne sais pas comment ça va se faire. Je suis pas sûr que la primaire est là pour désigner le meilleur candidat. Je suis pas sûr que ça soit une processus de désignation du meilleur. C'est pas fait pour ça. Je pense que c'est une. Je pense que dans l'esprit de ceux qui l'ont institué, il s'agit de réimpliquer un certain nombre de citoyens à l'intérieur de la vie politique et de les réimpliquer en amont. C'est-à-dire pas comme si le choix était déjà d'une certaine manière construit, mais s'impliquer dans choisir les modalités du choix d'une certaine manière.
Ludovic Piétenu.
En général, en France, on dit, et les exemples précédents l'ont montré, que c'est le candidat qui a le plus de chances de battre l'adversaire de droite qui est choisi par les participants à la primaire. Ce qui s'est passé avec François Hollande. Il était soi-disant mieux à même de battre Nicolas Sarkozy que Martine Aubry, une femme, et j'en passe.
Bah, toutes les motivations comptent à l'intérieur d'une primaire. Donc, mais alors en l'occurrence, je ne sais pas si cette question stratégique va jouer sur les primaires à droite. Il est trop tôt encore pour le dire. Il faudra voir qui se déplace, quelle est la partie de la population qui se déplace, ces fameux pourcentages d'un électorat potentiel de gauche. Vont-ils y aller? Ne vont-ils pas y aller? Il faut aussi attendre de voir ce qui va se passer. Pour l'instant, on est dans des intentions qui ne disent pas grand-chose de ce qui va se passer en réalité.
Florent Guénard, vous avez publié un très bon livre de philosophie politique, La démocratie universelle, sous-titré « Philosophie d'un modèle politique ». On a l'impression qu'ici, la démocratie s'approfondit en quelque sorte, avec des processus tels que les primaires, on peut les critiquer, mais en tout cas, on voit bien que c'est la visée, tandis que dans d'autres lieux, je pense par exemple à la Russie ou alors d'autres pays où là, la démocratie est encore plus mal en point, ce processus semble enrayé. Comment, en quelque sorte, expliquer ce hiatus ?
Ce hiatus a toujours fait partie de l'histoire des démocraties. Donc, de toute façon, cette histoire de la démocratie, on a voulu nous faire croire, c'est ce que j'essaye d'analyser dans le livre, dans les années 80, on a cru. C'est pas qu'on a voulu nous faire croire, c'est qu'on a sincèrement cru que cette histoire de la démocratie, elle était linéaire, que l'histoire, d'une certaine manière, l'histoire universelle, nous portait vers le triomphe de la démocratie libérale électorale. Donc, la première chose qu'on peut dire la première conclusion qu'on peut en tirer, c'est que ça se passe pas comme ça. Qu'il y a des avancées démocratiques et des reculs démocratiques. Alors, est-ce que les primaires, pour en revenir à ça, est-ce que les primaires sont une avancée démocratique ? Oui, peut-être, c'est une avancée démocratique, mais c'est une avancée démocratique à condition de considérer que la démocratie, c'est simplement un principe électoral de désignation des gouvernants.
Mais vous dites que c'est aussi la recherche du bien commun.
Mais voilà.
Mais est-ce que quand on fait un tout sauf Sarkozy, c'est la recherche du bien commun ?
Bah non, justement. C'est-à-dire que il faut arriver précisément à concilier, c'est ce que je disais, un principe démocratique électoral avec une définition plus enrichie de la démocratie.
Et on n'y est pas.
La démocratie universelle, c'est votre livre, Florent Guénard. Merci.